La question posée hier était la suivante. Benjamin Netanyahou doit-il, oui ou non, maintenir son discours devant l'Assemblée générale de l'ONU? Alors Blaise, vous qui êtes dans les secrets d'alcôve, dites-nous ce que les auditeurs en ont pensé de cette question. Ils pensent que oui ou que non, que Benjamin Netanyahou doit quand même maintenir son discours à l'ONU?
Eh bien, nos auditeurs sont assez d'accord entre eux, Didier, sur Instagram. Ils sont 59% à penser oui. Sur Facebook, ils sont 83% à penser oui. Et puis sur X, hein, qui est toujours celui qui apporte de la contradiction, ils sont à 50-50. Donc, des avis relativement partagés tout de même pour nos auditeurs. On va demander son avis à notre invité Yehuda Lankri, ancien ambassadeur d'Israël auprès de l'ONU et en France. Yehuda Lankri, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Dans le cadre de la question du jour, nous avons posé à nos auditeurs la question suivante. Benjamin Netanyahou doit-il maintenir son discours devant l'Assemblée générale de l'ONU, un discours qui est prévu ce vendredi? Alors vous, Yehuda Lankri, en tant qu'ancien ambassadeur d'Israël à l'ONU et en France, quel est votre avis sur cette question?
Alors, d'une part, il faut reconnaître à Netanyahou l'excellence dans ce type d'exercice qui consiste à prononcer un discours devant l'Assemblée générale des Nations Unies. On le sait, il excelle en matière de communication. Il a une arme redoutable, c'est sa rhétorique, sa maîtrise parfaite de l'anglais et sa capacité de défense et d'illustration d'Israël. Donc, d'un côté, on se dit que c'est l'homme de la situation. Après cette traversée extrêmement pénible pour Israël, ce mouvement de guerre, il est grand temps, notamment face à la dégradation de la situation d'Israël au niveau international, et à la montée en flèche de l'identification avec ce qu'on appelle la cause palestinienne, parfois ouvertement le soutien au Hamas. Il est grand temps qu'un ténor de la politique israélienne, dans ce cas de figure, M. Netanyahou, puisse s'exprimer devant l'Assemblée générale. D'autre part, la situation est une situation assez complexe. Nous sommes en état de guerre. En état de guerre, ça n'est pas le moment désigné pour un premier ministre dont la responsabilité est capitale dans ce cas de figure, de se mettre en état de non-influence directe sur les événements. Donc je suis un peu partagé dans cette situation. Je n'ai pas une envie de trancher là-dessus. Je comprends le dilemme de vos auditeurs, de celui de M. Netanyahou tout court, mais celui qui devra trancher en dernier.
Vous le soulignez, c'est des voix discordantes en Israël tiennent ce discours. Un premier ministre, un chef de guerre en temps de guerre ne doit pas quitter le pays.
C'est dans la logique la plus fondamentale. Donc on serait réellement tenté de se rabattre sur ce type de démarche. Néanmoins, comme je le soulignais, il y a une certaine importance à ce qu'il, lui précisément, puisse défendre Israël au sein de l'Assemblée générale, encore que, à choisir entre les deux priorités, je pense que la priorité locale, c'est-à-dire celle de la direction de la guerre, devrait prévaloir.
Alors, on vous l'avait rappelé, on est dans un contexte très tendu. Il y a eu ces nombreuses frappes sur des cibles du Hezbollah par Israël. Quels pourraient être les enjeux du discours du Premier ministre face à la communauté internationale?
Et d'abord, redresser cette hostilité à l'encontre d'Israël par bon nombre d'États membres des Nations Unies, puisque c'est aux Nations Unies qui s'adressent, à l'Assemblée générale, aux décisions et résolutions arbitraires qui s'y prennent dans l'Assemblée générale, la dernière étant l'embargo sur la vente d'armes à Israël, et d'essayer de remettre les choses dans l'Europe. L'agresseur, ce n'est pas Israël, c'est le Hamas d'abord. Le génocide, ce n'est pas Israël, c'est Hamas qui est génocidaire. Ce n'est pas Israël. Le Hezbollah, c'est l'agresseur par excellence. Nous n'avons pas de différend territorial avec le Liban, mais ils se sont arrangés le droit du côté du Hezbollah de faire la guerre à Israël au nom d'une solidarité avec les Palestiniens, mais je pense que c'est surtout au service de l'Iran. L'Iran que j'appellerais un Iran génocidaire. Pourquoi? Il y a 2 ou 3 mois, dans l'enceinte même des Nations Unies, la délégation iranienne aux Nations Unies avait mis en garde Israël en disant que si Israël devait s'attaquer au Hezbollah, ce qui n'est pas le cas, Israël se défend face au Hezbollah, l'Iran, à ce moment-là, livrerait une guerre d'extermination contre Israël. Ce sont les mots, une guerre d'extermination, c'est-à-dire une guerre génocidaire. L'intention est là. Or, d'après la Charte des Nations Unies, je vous renvoie à l'article 2, il est interdit à l'État membre de recourir à des moyens militaires contre un autre État membre et même à la menace contre l'État membre. Donc, tout disqualifie l'Iran d'appartenir à la famille des nations. Mais je ne vois pas l'exclusion de l'Iran parce que pour cela, il faut une procédure, une recommandation du Conseil de sécurité à l'Assemblée générale, un vote par l'Assemblée générale. Tout ça ne tourne pas en faveur d'Israël, puisque le veto russe ou chinois fera en sorte que le Conseil de sécurité ne recommandera jamais à l'Assemblée générale. Un tel projet de résolution.
Comment expliquer aujourd'hui le manque de dénonciation de la part de la communauté internationale des actes du Hezbollah? On a vu le président Emmanuel Macron, par exemple, apporter tout son soutien au Liban sans jamais condamner les actes des terroristes.
Alors oui, j'ai vu cette allocution du président Emmanuel Macron. Évidemment, si l'on remonte à l'attachement séculaire de la France au Liban, à l'amitié qui nourrit les deux peuples, aux liens historiques, culturels qui les unissent, cet acte de solidarité du président Macron est évidemment louable, bénéficie de considération. Mais il souffre d'un très grave impair. Et ce grave impair, je l'illustrerai au moyen d'un oxymore. Il y a eu sur le Hezbollah, une omission assourdissante. Pas un mot, pas une référence. Non seulement pas de condamnation, ce que vous constatez vous-même, mais il n'y a même pas une référence au Hezbollah. C'est comme si le Liban devait souffrir de l'énorme préjudice, celui d'un Israël hostile au Liban, ce qui n'est pas le cas du tout. Nous n'avons pas déclaré la guerre au Liban. Nous ne faisons pas la guerre au Liban. Nous nous défendons face au Hezbollah. Alors, le Hezbollah, ce n'est pas simplement un mouvement terroriste, c'est une armée terroriste, dotée de plus de 150 000 missiles tire sans discernement sur les objectifs qu'il choisit en Israël, qui depuis le 8 octobre a en fait tracé une nouvelle frontière pour Israël, puisque les localités du nord ont été abandonnées. Des dizaines de milliers d'Israéliens ne sont pas encore rentrés chez eux. Et Nasrallah, dans son dernier discours, met en garde les dirigeants israéliens en leur disant: vous n'arriverez pas à votre objectif, celui de reloger les habitants du Nord dans leur localité aussi longtemps que la guerre à Gaza n'est pas terminée. Donc vous voyez, il y a, à travers cette rhétorique et les actes du Hezbollah, un cas d'agression classique qui malheureusement passe à peu près inaperçu au sein de la communauté internationale. Je suis réellement désolé de constater que même le président Macron, pourtant averti de notre situation, n'ait pas trouvé les ressources Et les moyens, ne serait-ce que déclaratifs, d'une mise en garde contre le Hezbollah, éventuellement d'une condamnation, comme on pouvait l'espérer.
Pour terminer, et pour revenir au début de notre entretien, en cas de non-présence de Benjamin Netanyahou à l'ONU, ce serait Israël Katz qui s'exprimerait, le ministre des Affaires étrangères. Vous avez souligné l'excellence et la maîtrise du Premier ministre dans ce genre de discours. Israël pourrait-elle perdre quelques points si c'était Israël Katz qui se présentait à l'ONU?
Il a beaucoup de mérite, Israël Katz. Alors, il a ses propres qualités. Je pense qu'en définitive, on pourrait se permettre, réellement, dans cette situation si tendue, si critique pour Israël, de déléguer la mission à Israël Katz. Ça se fait, il y a de très nombreux ministres d'Affaires étrangères qui sont les chefs de délégation à l'Assemblée générale. Il pourra toujours prononcer son discours en le lisant, en le maîtrisant le mieux possible, même si, évidemment, la question de l'expérience, du charisme, vaut ce qu'elle vaut. Mais tout compte fait, un discours d'un premier ministre israélien à l'Assemblée générale des Nations Unies change sur le plan concret, pratique, un peu la situation. Ce n'est pas après un discours de Netanyahou qu'on verra les votes de l'Assemblée générale basculer en faveur d'Israël. Si je puis dire, on peut contrôler effectivement les dommages, entre guillemets, qui pourraient résulter de l'absence de Netanyahou. En définitive, il faut se rappeler que ceux qui ont succédé à Netanyahou pour un moment, comme Bennett ou Lapid, ont fait leur travail honorablement.
Yehuda Langri, je rappelle que vous êtes ancien ambassadeur d'Israël à l'ONU et en France. Merci d'avoir été avec nous sur Radio Judaïka.
Merci à vous, Blaise.